le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on est le 31 mars, et c'est la journée mondiale de la visibilité trans. Alors, qu'est-ce que c'est trans ? Je parle ici de la transidentité. La transidentité, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans le genre qu'on nous a attribué à la naissance. Par exemple, si à la naissance on vous a dit « Ah bah, vous êtes une fille » et que vous vous sentez pas du tout fille, et bah vous êtes trans. Par opposition, si on vous dit « Vous êtes une fille » et que vous dites « Oh bah oui, je suis assez d'accord », là, vous êtes cis. Donc c'est la différence qu'on fait entre transgenre et cisgenre. Mots qui sont d'ailleurs rentrés dans le dictionnaire cette année ou l'année dernière, je sais plus. Alors la transidentité concerne le genre et concerne pas le sexe. La différence entre les deux est pas très compliquée en réalité, c'est simplement que le sexe c'est une réalité biologique, donc ça va se rapporter aux organes génitaux, donc ce qu'on a entre les jambes, alors que le genre ça va se rapporter à une catégorie sociale. Donc on a l'habitude effectivement d'avoir les genres hommes et femmes qui sont plutôt bien définis, qu'on a bien en tête, mais aujourd'hui le spectre du genre est beaucoup plus large que ça, et d'ailleurs il y a même des études dessus, des études sociologiques, qui montrent bien qu'effectivement on a différents genres, il y a non-binaire, gender fluide, il y en a énormément. Mais ce sont voilà, des réalités qui sont un petit peu différentes de la simple opposition masculin-féminin. En revanche, pour ce qui est du sexe, eh ben, y en a trois. Y a les hommes, les femmes, enfin les mâles et les femelles, et on a ce qu'on appelle intersexe. Ça, c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à classer en fait, le sexe qu'on a en face. C'est un petit mix des organes génitaux qu'on retrouve plutôt chez le mâle ou chez la femelle. Mais ça n'a rien de problématique, c'est pas un handicap, ça rien du tout. D'ailleurs, il y a 1,4% de la population qui est intersexe, et ça n'empêche pas ni de se reproduire, ni d'être parfaitement heureux, d'avoir une production normale d'hormones. Bref, c'est juste voilà, un troisième sexe dont on entend assez peu parler finalement parce qu'il est souvent malmené dans beaucoup de cultures et dans la nôtre aussi, puisque nous en France on pratique ce qu'on appelle des normalisations de sexe, donc dès la naissance. Mais en réalité, ça n'a absolument aucun impact sur la santé d'être intersexe. Mais aujourd'hui, c'est le 31 mars, c'est la journée de la visibilité trans, donc revenons-en à la transidentité, et on va parler un petit peu de l'histoire de la transidentité, parce que c'est assez intéressant, selon moi. Déjà, il faut savoir que, selon les cultures et selon les époques, on n'a pas du tout traité la transidentité de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, au Moyen-Âge, ou en Rome antique aussi, on avait le droit d'être trans, mais c'était soumis à certaines règles. Tout comme aujourd'hui d'ailleurs, on a le droit d'être trans en France, mais c'est soumis à certaines règles, des règles sociales, des règles tacites, qui ne sont pas forcément énoncées, mais qu'on doit respecter pour être reconnu en tant que personne trans. Par exemple, au Moyen-Âge, ce qui était bien vu pour les personnes trans, c'était de vouloir rentrer dans les ordres, c'est-à-dire que les femmes, bien souvent, n'avaient pas le droit de rentrer dans les ordres de l'Église, parce que c'était des femmes, mais si elles se transformaient, et qu'elles devenaient des hommes, alors là par contre c'était très valorisé. De la même manière, dans la Rome antique, enfin pendant une certaine période de la Rome antique, parce que c'est quand même une période assez longue, le travestissement était bien vu parce que ça permettait en fait de changer de catégorie sociale et on n'avait pas les mêmes droits selon qu'on était homme ou femme, et selon l'expression de genre qu'on avait, eh bien on ne va pas acquérir les mêmes droits, ne pas avoir non plus les mêmes fonctions, et donc c'était pas un problème de se travestir à partir du moment où on respectait correctement les codes du genre qu'on voulait exprimer. Après, pour ce qui est de nos sociétés, niveau transidentité, en fait, on peut dire que le combat, ou plutôt la visibilité de la transidentité, on la date des années 70 avec les émeutes de Stonewall. En fait, c'est aux États-Unis, dans le quartier de Greenwich Village, il y a le Stonewall Inn, qui est un bar dans Greenwich Village, qui est un bar gay. Et bien souvent, on a une population relativement précaire, des SDF et d'autres personnes précaires. Et on a une population principalement gay ou travestie. Alors, il faut pas confondre quand même travestissement et transidentité, parce que le travestissement, c'est simplement le fait d'exprimer un genre qui est différent du sien, ou d'exprimer son genre, mais poussé à son paroxysme. C'est pas la transidentité n'a rien à voir avec le travestissement. Le travestissement concerne essentiellement les accessoires de vie, donc ça va être les vêtements ou d'autres accessoires type sac à main, etc. Et, mais bon, voilà, dans ce bar, en tout cas, il y avait pas mal de travestis, pas mal de personnes homosexuelles et pas mal de personnes trans également. Et dans les années 70, il y a eu une descente de flics à un moment donné, en fait, dans ce bar. Et il se trouve que cette fois-ci, les homos, ils ont dit bah non, cette fois on va pas se laisser marcher sur les pieds. C'était assez récurrent, hein, les descentes de police dans ce genre de bar. Mais cette fois, ils ont dit qu'ils voulaient pas. Et ça s'est fini en émeute pendant plusieurs jours, et notamment par le meurtre de Marsha P. Johnson, qui reste connue pour son combat pour la transidentité, parce que c'était une femme trans noire. Évidemment, avec beaucoup de discrimination et donc un gros combat à mener derrière. À partir de ce moment-là, on va commencer à voir émerger aux États-Unis de plus en plus de manifestations des droits LGBT, droits qui sont nommés LGB au début d'ailleurs, parce que les trans vont être un petit peu évincés de la scène, même si au début ils étaient très présents. On va quand même parler plus d'orientation sexuelle à ce moment-là, les droits des lesbiennes, des gays et des bi. Et c'est petit à petit que ça va être c'est un mouvement qui, à la base, est un mouvement qui vient de personnes précaires qui se font persécuter. Et ce mouvement va être repris par une classe un petit peu plus au-dessus et donc va être forcément un petit peu plus pris au sérieux aussi. Ça va avoir plus d'impact et ça va concerner de plus en plus de monde. Il va y avoir de plus en plus de manifestations et c'est comme ça que ce mouvement LGB va se créer et on va réintégrer les trans quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard d'ailleurs. Et bien sûr, tout ça s'articule autour de ensuite le combat contre le sida, etc. Mais voilà un petit peu comment est-ce que c'est né. En tout cas, ça vient de ces émeutes de Stonewall qui sont assez connues dans le milieu LGBT. Et une fois qu'on aura réintégré les trans à ce combat, eh bien on va commencer à réintégrer beaucoup d'autres notions, notamment la notion intersexe, dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même pas très très connue, mais qui existe. On va intégrer la notion queer, et pour le coup, les queers, c'est vraiment. Ça fait partie des personnes qui étaient dès le départ dans ces émeutes, puisque les personnes queer, en fait, on peut définir les personnes queer, je dirais, comme des personnes qui sont en dehors de toute représentation de genre normée, ou en dehors de toute réalité d'orientation sexuelle normée. On peut mettre beaucoup beaucoup de choses sous la casquette queer, et je pense que si on demande à des personnes queer de le définir, elles vont toutes avoir une définition différente. C'est pour ça que c'est assez large et que ça concerne aussi bien l'orientation sexuelle que l'identité de genre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terme queer, à la base, c'était une insulte envers les personnes justement qui exprimaient un genre différent ou une orientation sexuelle différente, encore différente de l'homosexualité ou de la transidentité. Et ces personnes-là, on les insultait en disant queer, ce qui est un équivalent de freak, qu'on pourrait traduire par monstrueux, je dirais. Et ces personnes-là se sont réappropriées le terme pour le garder, pour le faire devenir plus amélioratif, alors qu'à la base, c'était évidemment très péjoratif. Donc on a rajouté le Q de queer dans LGBTQI. Il y a le A ensuite pour les asexuels, le P pour les pansexuels. Bref, on va commencer à ajouter en fait tout ce qui concerne les orientations sexuelles différentes et les identités de genre différentes qui ne pourraient pas rentrer dans la catégorie lesbienne, gay ou bi, ou qui ne pourraient pas rentrer dans la catégorie trans ou queer. Toutes ces réalités-là, elles existent. C'est assez difficile de considérer que ça n'existe pas. C'est une réalité sociale, mais c'est la façon de traiter cette réalité sociale qui va différer selon les organisations et les sociétés et selon les cultures. Il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, il y a différentes cultures qui traitent les trans de manière parfaitement appropriée au point de vue des droits humains. Par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique, on considère les trans comme étant des médiateurs au sein de la société, tout simplement parce que ce sont des personnes qui voient les deux facettes du genre, les deux facettes les plus connues, évidemment, j'entends. Forcément, ce sont des personnes qui vont pouvoir comprendre les différents points de vue dans un couple, par exemple. C'est pour ça que ce sont des personnes considérées comme des médiatrices au sein de la société et qui permettent du coup d'avoir une meilleure entente au sein de la société. Donc la transidentité n'est pas du tout condamnée dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est pas le cas non plus en Thaïlande, qui est vraiment le pays de la transidentité. Tout simplement parce que on a une culture bouddhiste hindouiste qui est très proche de ce qu'on appelle la réincarnation. Et dans le cycle des réincarnations, le bouddhisme et l'hindouisme considèrent que on peut parfois avoir un petit problème de réincarnation, c'est-à-dire que on va pas se réincarner dans le bon corps. Il y a un petit couac qui se fait. Et finalement, le fait de transitionner, eh ben, c'est tout simplement aller reconstruire ce cycle de réincarnation, réparer l'erreur qui a été faite pendant le transfert de l'âme. Donc c'est parfaitement normal, c'est parfaitement naturel, et plus encore, ce serait condamnable d'aller à l'encontre d'une personne qui veut faire une transition, tout simplement parce que ce serait aller à l'encontre de ce cycle de réincarnation. Voilà, donc finalement, on a tout un panel de cultures et de sociétés qui vont traiter la transidentité de façon très disparate. A contrario, on a également en Iran, où la loi est un petit peu particulière, c'est-à-dire que comme l'homosexualité est interdite, si on veut transitionner pour devenir hétéro, là, l'opération est gratuite. On vous encourage à faire cette transition. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, eh ben, on va vous encourager à devenir un homme pour pouvoir aimer les femmes. De cette manière-là, vous ne serez plus lesbienne, vous serez hétéro. Donc voilà, c'est encore une réflexion différente. Et bon, en Iran, évidemment, avec Amnesty International, on ne peut pas vraiment s'accorder sur ce genre de principe, puisque les droits des orientations sexuelles et des identités de genre sont très sévèrement puni. Et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays dans le monde, notamment par exemple, on a une pétition avec Amnesty International au Paraguay de deux femmes qui ont été harcelées et agressées physiquement. Il s'agit de Irène et Mariana, qui sont deux femmes transgenres et qui ne peuvent pas dénoncer les problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien. Parce que comme toutes les personnes transgenres, Irène et Mariana ne peuvent pas faire modifier officiellement leur prénom, ni obtenir de documents d'identité qui correspondent à leur identité de genre. Et ces pratiques-là, ça les empêche bah, d'avoir accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, aux soins de santé, dans l'identité de genre dans laquelle elles se reconnaissent. Irène et Marina, ce sont deux femmes donc qui se battent, elles, depuis des années pour que les choses changent à ce niveau-là. Mais en plus d'être stigmatisées et agressées par des groupes anti-LGBT, elles sont également harcelées par les autorités elles-mêmes. Parce que les autorités, bah voilà, elles continuent d'interdire les manifestations de la communauté LGBTI+ pour invisibiliser leurs demandes. C'est pourquoi en cette journée du 31 mars 2023, pour la journée internationale de la visibilité trans, on voudrait visibiliser au contraire ce genre de combat. On demande, nous, aux autorités du Paraguay de garantir un cadre légal qui permette la reconnaissance de l'identité des personnes trans. Et si vous êtes d'accord avec cette pétition, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour la signer. Ça vous fera la bonne action de la Journée mondiale de la visibilité trans. Avant de vous quitter, je vais quand même vous parler de la situation juridique et administrative en France. Il faut savoir qu'en France, depuis 2017, la procédure pour changer son prénom sur ses papiers d'identité a été largement simplifiée, puisqu'aujourd'hui, on peut simplement passer par l'officier d'état civil. Donc vous allez à la mairie, vous faites un dossier de demande de changement de prénom, et il se trouve que parmi les raisons officielles pour pouvoir changer de prénom, il y a le fait d'être trans. Alors il faut tout un tas de preuves, notamment des attestations sur l'honneur, et aussi des papiers qui seraient déjà à votre nom pour prouver que voilà, vous utilisez déjà ce nom-là, votre nouveau nom, dans votre vie quotidienne. Par contre, il faut savoir que les officiers d'état civil n'ont pas le droit de demander des papiers relatifs à la santé, parce que il y a toujours le droit à l'intimité, le droit à la vie privée. Donc, ces papiers ne sont pas nécessaires à la demande de changement de prénom. Cependant, il y a encore beaucoup d'officiers d'état civil en France qui demandent ce genre de papier et c'est tout à fait illégal. On n'a pas le droit de demander des papiers concernant la santé d'une personne, donc des attestations de médecin ou quoi, non, ça n'est pas nécessaire pour changer de prénom, puisqu'il s'agit à présent d'une procédure qui est simplement administrative. En revanche, pour tout ce qui est encore administration, la demande de changement de sexe, la mention du sexe sur la carte d'identité, ça, par contre, ça doit passer devant un tribunal. C'est pas uniquement l'officier d'état civil. Et là, il faut fournir des preuves. Alors, encore une fois, en principe, selon la loi, on n'est pas censé demander de preuves qui concernent l'anatomie, qui concernent la santé, donc des attestations de médecin ou des rendez-vous, ou voilà. Normalement, sur simple demande devant un juge, ça devrait passer. Cependant, encore une fois, dans la réalité des faits, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, à Montpellier, on vous demande des photos avant-après. C'est totalement illégal, mais voilà, ça se fait. Et il y a d'autres endroits où on va vous demander des attestations de médecin, etc. Donc, c'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la loi. Dans la loi, on peut faire cette demande et apporter des preuves matérielles, pas forcément qui concernent la santé, ou en tout cas l'aspect physique de la personne. Mais ce sont encore des preuves qui restent nécessaires dans l'esprit des juges et qui sont donc demandées lors de ces jugements. Après, pour tout ce qui concerne la transition en tant que telle, il faut savoir que c'est quelque chose de très personnel. Les parcours sont très différents les uns des autres. Tout le monde ne fait pas les choses dans le même ordre, même si on voudrait certaines associations telles que la SOFECT a voulu qu'il y ait un ordre préétabli pour effectuer une transition. Mais le fait est que ce n'est pas possible dans le sens où chaque personne est différente et ne va pas aller au même rythme pour transitionner. Et surtout, chaque personne n'a pas envie d'effectuer tous les éléments de la transition. Il y a des personnes qui ne voudraient faire que, par exemple, une opération de mastectomie, ce qui est aujourd'hui complètement impossible en France, puisque pour faire une mastectomie, on demande d'avoir fait une prise d'hormones avant. Donc voilà, c'est très difficile encore d'avoir un parcours trans fluide, puisque ce parcours est préétabli par la médecine et est également préétabli par l'administration. Le problème, c'est tout simplement que les lois ont été faites il y a très très longtemps, notamment tout ce qui concerne la santé, enfin l'aspect sanitaire du problème. Toutes ces lois ont été faites dans les années 80 et évidemment, on n'est plus dans les années 80, on n'a plus le même recul sur les choses et aujourd'hui, les personnes trans demandent autre chose et demandent d'autres droits, demandent surtout d'être considérées comme des personnes tout à fait normales parce que même si on a enlevé cette mention dans la liste des maladies mentales, reste que beaucoup de médecins considèrent encore que la transidentité est un problème psychologique à régler, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais si on veut que les choses changent, il suffit simplement de s'informer, surtout d'informer le corps médical, le corps juridique sur ces questions-là. Donc, je vous invite à parler de ça autour de vous. Ne pas hésiter à poser des questions à des personnes trans. On dit souvent que les personnes trans répondent pas aux questions, que ça les met mal à l'aise, etc. C'est pas vrai. Il suffit de leur demander gentiment. En fait, si vous avez de la curiosité mal placée, c'est sûr que c'est pas très agréable. Mais aller poser des questions à des personnes trans, c'est les quand même les mieux placés pour vous répondre. En leur demandant, est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions, s'il te plaît? Si elles disent non, bah tant pis, mais je suis persuadé que la plupart vous diront oui. Moi, personnellement, je dis oui. Je pense que vous pouvez aller poser des questions aux personnes directement concernées. Vous aurez des réponses beaucoup plus claires et beaucoup plus précises et beaucoup plus justes que si vous allez faire des recherches sur Internet. Moi, je vous souhaite un beau week-end. Je vous encourage encore une fois à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer les pétitions en rapport et à nous laisser un petit commentaire sur Radio FM+, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Bon week-end à tous et à toutes.